Ici, le studio de Châteaudun, nous accueillons Jocelyne et Anthony de la librairie du coin. Qui vont nous présenter, Anthony va nous présenter un livre pour les jeunes.
Exactement.
Le sacré des sorcières.
C'est ça, sa sacrée sorcière.
Un auteur anglais. Alors,
oui, tout un programme.
Alors, t'écoute.
Donc, sacrée sorcière, donc c'est une bande dessinée qui est parue aux éditions Gallimard la semaine dernière, le 29 janvier.
C'est tout récent.
Donc, c'est une bande dessinée de Pénélope Bagieu qui est une adaptation du roman de Roald Dahl. Donc, ce roman était paru pour la première fois en 1984. Donc, ça, c'est un peu moins récent. Il est totalement remis au goût du jour par la bande dessinée de Pénélope Bagieu, mais également un film qui va sortir à la fin de l'année avec tout le casting hollywoodien tel qu'on le connaît. Voilà, ils vont vraiment remettre cette histoire au goût du jour. Donc, justement, cette histoire, de quoi parle-t-elle ? On suit l'histoire d'un petit garçon. Alors, petite particularité, il n'y a aucun prénom dans cette histoire.
Ah oui.
Il y a plein de personnages, mais on ne connaît pas leur prénom. Donc, c'est pour ça que je vais dire garçon, grand-mère, etc., parce qu'il n'y a pas de prénom. Donc, c'est un petit garçon qui a 8 ans, qui est passionné de magie et d'animaux, mais il vient de perdre ses parents dans un accident de voiture. Donc, c'est sa grand-mère qui l'a recueilli et qui, du coup, bah, l'élève. Ils vivent ensemble, tous les deux. Voilà. Donc.
Oui.
Au début de la BD, c'est vrai que le petit garçon, bah, voilà, il est un peu triste, forcément. Puis déjà,
après, il était un choc comme ça.
Il a un peu de mal à passer au-dessus, hein, c'est normal. Après, bon, heureusement qu'il a l'amour de sa grand-mère parce qu'elle, elle l'élève comme si c'était son fils, elle l'aime plus que tout. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, la grand-mère est très fantasque. Elle a une grosse chevelure, une chevelure violette. C'est une toute petite dame qui fume le cigare, qui n'a pas la langue dans sa poche. Enfin, c'est très drôle. Parfois, on a l'impression que c'est elle l'enfant par rapport au petit garçon. Mais voilà, ça, c'est vraiment très sympa comme relation entre les deux. Et un soir, alors que le petit garçon a fait un cauchemar et qu'il n'arrive pas à dormir, il demande une histoire à sa grand-mère. Et sa grand-mère lui dit « Eh bien, tu sais quoi, moi, j'ai déjà rencontré une sorcière. » Et là, « Mais c'est pas possible, ça n'existe pas, comment ça se fait ?» Forcément, le petit garçon a pas de questions.
Beaucoup d'interrogations.
Et en fait, sa grand-mère lui explique que lorsqu'elle était petite, sa meilleure amie a été piégée par une sorcière et emprisonnée dans un tableau. Parce que elle avait mangé un bonbon magique qu'il ne fallait pas manger. Et du coup, bah voilà, dans un tableau, elle a jamais réussi à en ressortir. Et du coup, le petit garçon effrayé lui dit, mais comment on fait pour reconnaître les sorcières? Moi, je sais pas, imagine, j'en croise dans la rue. Et en fait, les sorcières, elles ont plein de particularités. Elles portent des gants, elles ont des perruques, enfin, plein de petites choses qui permettent de les reconnaître. Donc voilà. Selon la grand-mère. Donc ça permet un peu de planter le décor. Et tout va basculer lorsque la grand-mère et son petit-fils vont aller dans un hôtel en vacances. Et que le petit garçon va se retrouver coincé dans une salle de réception remplie de sorcières.
C'est le congrès
annuel des sorcières d'Angleterre. Et donc heureusement, il a réussi à se cacher. Mais en fait, il va apprendre que la grandissime sorcière, donc c'est la chef,
hein, la
reine des sorcières, a un plan. C'est de transformer tous les enfants en souris pour ensuite les tuer avec des tapettes à souris. Voilà.
Quel programme.
Faut des imaginations, bois.
On est toujours très fantasque, hein, Roald Dahl. C'est
sacré
toujours
sorcière.
Sacré sorcière. C'est toujours totalement inventé, imaginé. C'est très drôle. Et voilà, donc forcément, le petit garçon va se dire, oulala, comment je vais faire? Je suis enfermé avec des sorcières qui aiment pas les enfants, j'ai peur. Enfin, c'est vraiment très drôle. Vous voyez, la sorcière, elle se transforme. Elles sont toutes déguisées, en fait, en femmes de tous les jours, hein. Elles ont des métiers, des amis, enfin, comme si de rien n'était. Mais en fait, elles cachent bien des choses. Et voilà, la sorcière est totalement tyrannique. Puis bon, on s'aperçoit vite que les autres sorcières, elles sont un petit peu, pas simplettes, mais elles sont un peu de mal à suivre, on va dire.
C'est bien illustré. Hein,
c'est pour tout âge. Hein, ça c'est vraiment...
Pas que pour les enfants. Hein.
Non, on peut tous apprécier cette histoire. Ouais. Ça, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, après, j'en dis pas plus parce que...
Le faire découvrir et l'envie de lire.
Il faut découvrir comment le petit garçon va s'en sortir dans cette salle remplie de sorcières. Et est-ce que les sorcières vont réussir à mener leur plan à bien? C'est ça aussi la grande question.
Beaucoup de suspense.
Ah oui.
Il y a la recette de la formule 86.
Ah oui, ce qui est très drôle, c'est que c'est vraiment bien illustré.
Oui.
Puis voilà, il y a plein de petites anecdotes. C'est vraiment très sympa. Voilà, sacrée sorcière.
Nous prenons une petite pause musicale.
Je vais faire.
Tu vas
me poser des questions.
Tu vas me poser des questions. C'est que je suis peut-être allé un peu vite.
D'accord.
Je ne me
rendais pas trop compte. Jocelyne va nous parler d'un roman. La pratique de Tudor.
Non, je vais je vais vous parler de Juliette, de Patrick Tudoré. Donc son roman Juliette est paru aux éditions Talendier, pardon. Et c'est donc l'histoire de Juliette Drouet, qui est née en 1806 à Fougères. Ses parents sont décédés alors qu'elle n'avait que 20 mois. Donc elle se retrouve orpheline. Elle a des frères et sœurs et évidemment ils sont tous dans la même situation. Donc c'est son oncle René-Henri Drouet. Je crois que c'est pas son nom Drouet, elle a pris le nom de son oncle après. Son oncle donc René-Henri Drouet qui va s'occuper d'elle. Pendant plusieurs années, elle vit à Paris dans un couvent. Elle va être là, elle est simplement nourrie, logée, elle reçoit une éducation. Elle a pas vraiment de famille à part cet oncle qui s'en occupe mais quand même assez loin parce qu'elle n'est pas au mieux avec sa tante quoi, elle est pas voilà.
En fait là le couvent c'est vraiment d'avoir un toit.
Un toit, ouais. Voilà parce que
elle a été recueillie comme
voilà,
ça.
Voilà, mais... c'est ça. Alors elle va comment ? Ouais. Quand elle sort du couvent, elle va se chercher un petit peu, elle va vivre chez son oncle, mais bon comme je vous le disais avec la tante c'est pas le grand amour, donc elle va commencer à vivre sa vie de jeune femme et elle va se laisser séduire par James Paddy. Pradier, pardon, qui est sculpteur. Ils vont avoir une fille, Claire, qui va naître en 1826. Donc Juliette a 20 ans, elle est toute jeune. Et par ce sculpteur, elle va commencer à rentrer dans le milieu artistique, entre guillemets. Hein, voilà. Elle va croiser le chemin de divers artistes.
Oui, j'imagine qu'elle a dû rencontrer.
Oui, elle va. Voilà. Et elle va se lancer dans le théâtre. Elle a une opportunité, elle va croiser un homme de théâtre, elle va faire donc du théâtre. Elle deviendra pas une grande vedette, mais quand même, ça va lui permettre de vivre. Hein, donc parce qu'après, Monsieur Pradier va pas rester à côté d'elle, il va partir lui aussi vivre sa vie. Donc elle va se retrouver seule avec sa petite Claire. Hein, donc voilà. Quand elle joue au théâtre, il y a une autre pièce en même temps qu'elle. Il y a une autre pièce qui se joue. D'un jeune auteur, c'est la pièce Hernani, et le jeune auteur n'est autre que Victor Hugo, dont à l'époque on disait pique-pendre hein, quand même.
Oui,
hein, c'était
oui.
Voilà.
Pas la même renommée qu'aujourd'hui.
Non, pas tout à fait. Donc ils vont se croiser en 1833, donc elle a 27 ans. Lui est marié, bien sûr, avec Adèle. Il a 4 enfants. Cela dit, ça ne va pas l'empêcher d'avoir une relation extra-conjugale avec Juliette et ils vont s'aimer follement et vivre cette passion pendant 50 ans quand même. Ils se rencontrent en 1833, Juliette va décéder en 1883 et ils seront toujours ensemble. Et elle va traverser 50 ans, c'est moins facile pour elle que pour lui, hein, mais elle est toujours là quoi. Et donc, elle va devenir Juju pour lui et lui va devenir Toto pour elle. C'est Toto et Juju.
J'aime
vraiment.
Bien ces surnoms.
Ouais,
Toto et Juju.
Mais vraiment, hein, vraiment. Donc, ce que je vous disais, c'est que pendant plus de 50 ans, Juliette va aimer Victor Hugo d'un amour inconditionnel. Hein, c'est-à-dire que c'est un amour qui est fait d'attente, d'espérance, de pardon, parce qu'il a une famille qui est assez. dense, quoi, qui est vampirisante quand même. Il y a quatre enfants, il y a une femme. Oui, mais il y a aussi, il n'est pas toujours, il n'aura pas toujours été fidèle tout au long de sa vie. Hein, donc,
assez volage.
Oui, il a des petites aventures quand même. Donc, mais elle pardonne toujours. Hein. Elle, Juliette, l'a toujours protégée, aidée, notamment dans la période d'exil, hein, puisqu'on se rappelle que Victor Hugo a vécu toute une période où il a dû quitter la France. Il a vécu en Belgique, il a vécu à Jersey, à Guernesey pendant plusieurs années. Et c'est Juliette qui organisait les départs, qui organisait la fuite, c'était pas une fuite, enfin l'exil quand l'exil, même. Hein. Oui. Elle a toujours été là. J'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'elle a toujours été dans ses bagages, en fait, parce qu'elle a toujours été là. Alors, lui, il était dans une maison avec toujours sa famille. Elle était dans un petit hôtel modeste à côté, ou dans une petite maison, mais à côté. Voilà, toujours dans ses bagages, toujours à proximité, mais jamais dans la lumière. Et elle a toujours supporté ça. Elle n'avait pas le choix, elle l'aimait de toute façon.
Cachée,
même si c'était de notoriété publique qu'elle était la maîtresse de Victor Hugo, c'est, officiellement, elle n'était jamais à ses côtés. Forcément, il avait une famille, il y avait quand même une femme, des enfants, voilà.
Il faut avoir un sacré moral d'acier et des sacrés sentiments.
Elle a tenu 50 ans comme ça. Mais vraiment, d'ailleurs, le titre que Patrick a donné, Victor Hugo, mon fol amour, c'est vraiment ça, quoi. Elle n'a aimé que lui. Elle lui écrivait tous les jours au moins une lettre. Et c'est grâce à ces lettres que l'on peut reconstituer sa vie.
Oui, que les lettres ont été publiées.
Voilà. Alors quand même, à la fin de sa vie, après le décès de Adèle, donc la femme de Victor Hugo, ils vont vivre ensemble quand même. Plus quel âge elle a, mais voilà, toute sa jeunesse, elle a été que hargne, jalousie, etc., etc. C'est à la fin de sa vie où ça s'apaise un peu, où elle peut vivre avec lui.
D'accord.
Et encore, Adèle Hugo a fini par accepter Juliette. Bien sûr que c'était de notoriété publique qu'elle était présente. Elle a fini par l'accepter. Alors, pas jusqu'à l'inviter chez elle à dîner, mais quand même, voilà. Hein. Et oui, je me dis, voilà, faut quand même imaginer cette femme qui vit toujours dans l'ombre de l'homme qu'elle aime. Et il y a quelque chose qui m'a un peu marqué lors de l'exil où ils sont à Guernesey. Elle vit dans une maison donc modeste, hein, la petite maison pas très loin de son prince, hein, alors que lui vit à Hauteville House, donc c'est grande maison de Victor Hugo, grande maison face à la mer, donc il y a femme et enfant, il y a des gens de maison, belle situation. Il y a des réceptions qui sont organisées dans cette maison, et elle n'a que les bribes, elle n'est jamais conviée aux réceptions. Elle est toujours spectatrice, comme une petite souris derrière la porte. Elle n'a que des échos de ses réceptions dans la presse, parce que Victor Hugo reste Victor Hugo. La presse, on relate ce qui s'est passé la veille. Et elle est témoin de tout ça sans jamais pouvoir
participer
pleinement. Échanger et être reconnue. Je me dis quand même, 50 ans comme ça, je ne sais pas, aujourd'hui... C'est une vie de sacrifice. Hein.
Totalement,
Telle que vous nous la décrivez, hein, c'est vraiment...
Elle a vécu qu'au travers de lui, du peu qu'elle pouvait avoir.
Espoir. Oui, parce qu'il y a la famille, donc les enfants. En plus, Victor Hugo n'a pas eu une vie simple, c'est-à-dire que ses enfants, il les a tous perdus. Sauf Adèle, mais Adèle, sa fille, mais elle a fini dans un hôpital psychiatrique. Les autres sont morts très jeunes. Hein. Léopoldine est morte très jeune. Les deux garçons aussi, assez jeunes. Ils ont quand même fait des petits-enfants, mais assez jeunes. Et donc, elle a subi tout ça parce que, d'accord, elle n'était pas là pour les réceptions, mais par contre, quand il n'était pas bien, elle était là. Enfin, elle l'a soutenue, elle l'a... Donc, quand il revient en France, que tout va plus ou moins bien pour lui, il y a la grande reconnaissance du public, c'est-à-dire que, pareil, il y a une scène qui me revient à l'esprit, quand on a donné la rue, l'avenue où il habitait, ça a été l'avenue Victor Hugo, alors là, il est porté en triomphe et tout, et elle, encore une fois, elle est derrière. Quoi. Voilà, bref, belle histoire, une belle histoire d'amour. Là, ça va être la Saint-Valentin, donc c'est à lire. Et je voudrais aussi dire que Patrick Tudoré va venir défendre, enfin nous faire une petite conférence sur Juliette Juliette Drouet et Victor Hugo, le 21 mars à la librairie. Et je pense qu'on aura plein de questions à lui poser et il pourra nous donner plein de détails sur la vie de Juliette et de Victor Hugo. Une très, très belle histoire. Ouais, très belle histoire.
Merci, Jocelyne, pour nous donner l'envie de lire de ces romans.
Voilà. Avec plaisir. Oui, ben finalement, Juliette, elle est...
Elle est...